content que vous soyez tous là, tel que je suis. Je constatais pendant qu'on chantait, on n'est pas obligé d'être, de venir au Seigneur avec une cravate, comme je l'ai, avec un costume. C'est pas ça que Dieu regarde. Je le fais purement parce que je crois que je, avec un respect, quand il y a une activité élevée, socialement, on s'habille à propos. Mais quand on vient au Seigneur pour croire, comme le verset qui était sur l'écran tout à l'heure, Abraham crut. Et cela fut imputé à la justice, a été compté comme justice. C'est une vérité qui est tellement merveilleuse et tellement magnifique que, à cause de sa simplicité, il n'y a personne qui ne peut pas faire ça. Il y a plein de choses religieuses que vous n'arriverez pas à faire, mais croire, et la profondeur de ce que Dieu veut par ça. J'espère peut-être réaliser un tout petit peu ce matin dans notre texte en Hébreux, chapitre 6, où on revient. Ça fait 6 mois presque que nous avons commencé ce parcours à travers le livre de Hébreux pendant 6 semaines à peu près, décembre et avant. On a laissé du côté ça, on a repris maintenant. Et je vous invite de retourner là. À cause de l'absence, on a repris la semaine dernière. Je voudrais juste vous rappeler que les récipients de cette épître, qu'est-ce qu'une épître? Une lettre. Nous en avons 20 dans le Nouveau Testament, donc 13 ont été écrits par l'apôtre Paul sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et d'autres par Pierre, Jacques, Jude. Et nous avons vu que cet épître est écrit aux gens qui tremblaient à cause de leur foi. Deuxième génération de chrétiens, troisième même déjà, ils commençaient à avoir des épreuves où leur foi était mise contre les pressions du monde et surtout de persécution. Il y a certaines nous avons des persécutions, mais ils ne sont pas la même chose. C'est plus subtil et parfois plus effrayante parce que les pressions de la prospérité sont plus fatales souvent, poisonneuses, plus incapables, qui nous rend incapables de soupçonner leur présence que pressions de l'affliction. Et pourtant, nous sommes dans ce domaine, dans 2015, beaucoup de pressions subtiles, pressions du monde, de vivre comme le monde, d'accepter les standards moraux de ce monde. Tandis que les pressions ici, maintenant, la foi chrétienne, au temps de Néron, a été illégale maintenant. Être chrétien aurait été de vous mettre en conflit avec le gouvernement, même jusqu'à la mort pour certaines. Ce n'était pas encore vraiment dedans comme avant. Mais à cause de ça, certains chrétiens, entre guillemets, périphériques, qui étaient dedans au moins doctrinalement, et au moins ils s'accordaient intellectuellement sur la foi chrétienne, commençaient de se remettre en question. Est-ce que ce qui arrive vaut le coup de continuer, peu importe le prix, parce que il y a certaines personnes, peu importe le prix, rien ne changeait pour eux. devant le pistolet, oui ou non, tu es chrétien, dis non, tu vas partir. Dis oui, tu vas mourir. Et il y avait des personnes qui mettaient ceci en question. D'autres, pas du tout. Et c'est ces personnes que l'apôtre adresse. Et nous avons vu ça, et surtout dans chapitre 6, où nous voulons juste réviser assez rapidement trois choses que nous avons vues dans le premier verset. Je vous conseille d'ouvrir vos Bibles à chapitre 6. Dans les deux premiers versets, l'apôtre dit aux chrétiens, à tout le monde, dont il risque d'avoir certaines personnes qui sont concernées par ceci, il y a une fondation qu'il ne faut pas tourner en rond dessus, il faut aller en avance pour construire dessus. Il y a un but vers quoi on devrait s'arrêter de tourner dans la paresse, mais avancer et aspirer. Et puis, il y a une mauvaise habitude de destructeur à débarrasser. Voyez cela, renoncer aux œuvres mortes, mais aller vers ce qui est complet, qui est parfait. Puis après, en verset 3, nous avons noté ici, dans un seul verset, cette tension entre la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. Dieu veut et il donne des commandements. Changer votre manière de penser, c'est une responsabilité humaine. Et on a vu ça même dans le passage qu'on a lu. Et puis en versets 4 à 6, nous avons vu 5 traits chrétiens que si ils pourraient être invalidés, et je me suis débat avec ce mot, mais si c'était possible, et nous avons vu des choses assez surprenantes, il est impossible que si une personne qui a été éclairée, premier, je suis en verset 4, si vous me suivez dans votre Bible, et qui ont goûté le don céleste, deuxième, troisième, qui ont eu part au Saint-Esprit, quatrième, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et cinquième, les puissances du siècle à venir dont nous avons parlé un tout petit peu. Si il était possible d'être une personne qui faisait tout ça et qu'il acceptait, mais s'il quittait le Seigneur, ça serait une impossibilité qu'il revienne. Ce qui dit, il y a des gens qui prétendent tout ça. Ils ne le savent même pas qu'ils prétendent. Mais leur foi n'est pas authentique. Il y a des personnes qui sont ça, et ce que nous avons vu, et ce que nous voyons à travers ce passage, et dans le reste du livre, la persévérance est la meilleure évidence que la foi qui sauve réellement est en train de s'exercer. Mais si une personne qui a connu toutes ces choses terminait par rejeter Dieu, pas de possibilité qu'il soit revenu à une autre, à la repentance. Repentance veut dire changement. Ça, c'est un verset qui devrait quand même nous donner consternation. Parce que sans doute, dans cette salle d'une cinquantaine de personnes, il y a des personnes qui disent, je ne suis pas prêt à me donner au Seigneur, je vais faire ma décision plus tard, quand j'avais essayé ça, quand j'ai fait ça, quand j'ai plongé dans ce désir, quand je fais ce que je veux, je vais décider. Rien n'est plus dangereux ni naïf que de parler comme cela. La capacité, comme pour Ésaü, de pleurer parce qu'il a perdu son droit d'aînesse existait. La capacité d'avoir peur d'aller à l'enfer existe. Mais la capacité de aimer Dieu et de changer sa vie sur une décision n'est pas là. Et vous connaissez des personnes qui, à bout d'un certain temps, sur plein de différentes choses, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient formé une habitude de ne jamais pouvoir faire. Les gens qui auraient pu faire des choses, force de l'habitude, ils ne voient pas la capacité. Combien de personnes crient à Dieu pour dire, permets que je croie, et Dieu écoute, mais si je ne permets pas, il n'y a pas de repentance. Et ça, c'est ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas à dire que le chrétien perde ce qu'il a. Ça veut dire que les personnes peuvent vivre pendant un certain temps, pendant longtemps, sans jamais être chrétien et jamais soupçonner de ne pas être chrétien. Alors, nous avons vu ce passage. Et puis, nous avons vu deux versets qui étaient illustrations, comme Jésus disait en Matthieu chapitre 13, c'est la référence, mais c'est aussi en Marc, c'est aussi en Luc. La terre qui, à l'extérieur, ils ont reçu la même pluie, ils ont reçu le même soleil, ils ont reçu les mêmes ingrédients de engrais, etc. Mais l'un produisait de la bonne fruit et l'autre produisait que des épines et des non-herbes. Et ça correspondait à ça. Mais quand on arrive à verset 9, nous voyons cet optimisme actuel quant à leur salut authentique. Et en verset 10, on a constaté quatre mots clés. Mémoire, justice, amour, service. Je constate, disait l'apôtre, malgré mon avertissement sévère, parce que dans n'importe quelle église, d'une église de d'une cinquantaine de personnes qui étaient assez petites, ou dans les grandes ou dans les petites, il pourrait toujours avoir des personnes qui pensent, je m'attache ma remorque à ce groupe parce que ça me plaît, mais je ne suis pas vraiment un croyant qui a sa vie changée par Dieu. Donc, quatre mots, Dieu n'a pas oublié, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour que vous avez montré vers les autres et pour son nom. Et, pour dire dans une seule phrase, Dieu ne peut pas oublier sa propre justice qui se démontre dans le service actuel pour les saints à cause de son nom. Et donc cette personne, je sais que vous vacillez, je sais que vous êtes en train de remettre en question et rentrer dans le symbolisme en quoi vous avez vécu dans le temps passé, mais ne faites pas ça. Ne faites pas cette décision fatale, mais allez en avance pour réaliser. Et franchement, je regarde votre amour pour le Seigneur, je regarde ça manifesté dans votre amour pour des frères et sœurs en Christ. L'épître de 1 Jean parle des preuves doctrinales, des preuves morales et des preuves sociales. L'amour qui était montré les uns pour les autres et qui manifeste que la vie de Christ est réellement dans ces personnes. Et puis, verset 11, le désir de voir cette même diligence comme signe ou comme évidence d'un salut vraiment authentique, vraiment réel. Et puis, verset 12, et je vais lire verset 12 avec nous pour que nous entrions dans le passage qui suit, c'est-à-dire verset 11, bon, je vais lire, et si vous avez vos Bibles ouvertes, lisez avec moi, nous désirons, 9 et 10, une persuasion, 11 et 12, un désir, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, ce zèle que vous avez montré pour le nom de Dieu et pour l'aide des autres personnes, que vous montrez cette même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance en sorte que... Et puis il va suggérer deux choses. Il va, dans le verset 2, il va suggérer, enfin c'est pas une suggestion, mais il va vous le dire, que vous ne vous relâchiez point. Ne relâchez point. Relâcher démontre la possibilité que vous n'avez jamais été attaché. Oui, c'est une chose de se tenir et de suivre parce que ça vous plaît, mais le parabole de semeur démontre qu'il y a plein de gens qui font ça. Tout va bien, le soleil brille, les gens ils chantent bien, les gens sont très accueillants à l'église. On aime être avec des personnes comme ça, mais le moment vient plutôt plus tard, où la pression, alors, chacun a son prix, on entend ça dans le monde, chacun a son prix, tu lui avais offert autant d'argent pour qu'il vende ça, non, oui, j'avais offert beaucoup, mais il ne veut pas vendre cette position sentimentale, chacun a son prix, t'inquiète pas, j'ai de l'argent, je vais lui faire une offre encore plus élevé. Et puis, il termine par vendre. Chacun a son prix, on dit dans le monde. Satan disait ça par rapport à Job. Pas les mêmes mots exacts, mais c'était l'idée. Job peut être acheté quand même. Je vais avoir Job entre mes mains. Oui, bien sûr, il te sert. Parce que tout va bien. Tu le protèges, tu le gâtes, tu lui donnes des possessions, tu lui donnes 10 enfants, tous qui sont en bonne santé, tous qui sont mariés, une famille gaie, joyeuse. Bien sûr, il t'adore. Mais, mets ta main sur lui, je t'assure, Dieu, il va te maudire en face. Et vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Dieu a permis que Satan touche les possessions de Dieu. Ça n'a pas marché. Satan disait encore, oui, mais si tu touches son corps avec la douleur, avec les choses terribles, je t'assure, il te maudira en face. Je te permets de toucher son corps, mais ne le tue pas. Et vous connaissez l'histoire. Job a souffert énormément. Pas juste pendant une semaine ou pendant quelques jours, mais pendant un assez long temps où il est presque découragé de vivre, presque déprimé. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait vivre? Pourquoi tu ne m'as pas tué avant que je suis sorti du sein de ma mère? Êtes-vous jamais arrivé à cela? Probablement pas autant que Job. Mais Satan dit qu'à par rapport à vous, chacun a son prix. Et l'apôtre est en train de dire, non, celui qui a la foi réelle, qui sauve, n'a pas de prix. Et cette détermination ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Dieu le protège. Dieu le garde au moment où la pression est le plus fort, pour qu'aucune épreuve ne lui est survenue qui n'est pas humaine. Mais il sait que Dieu permet ce qui arrive, Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que ça dépasse leur force. Mais avec l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir. Chaque fois. Et les illustrations dans les centaines de millions à travers les siècles sont la preuve de ça. Et puis, donc, l'apôtre dit, je suis persuadé de votre authenticité malgré mon avertissement sévère. Je désire que vous démontrez le même zèle quant à votre croissance. Et il va maintenant, dans le passage devant nous, donner deux illustrations. Une illustration de Abraham. On attendrait que Abraham soit la personne. Abraham est la personne qui est appelée dans la Bible comme le père de ceux qui ont la foi. Et après, et j'avais l'intention de traiter ces deux illustrations, mais je ne vais pas faire le deuxième. Maintenant, j'ai changé pour aujourd'hui parce que j'aimerais bien que nous approfondissions juste un tout petit peu dans cette vie d'Abraham. Alors, lisons le texte. Lisons le texte ensemble. J'avais noté quelques mots que j'ai soulignés. J'aimerais bien que vous lisiez avec concentration. Et puis, essayez de se rappeler au fur et à mesure pendant les quelques minutes que nous allons traiter ce passage. Ou dans vos Bibles, ou sur l'écran, si ça c'est les Bibles jusqu'au fond. Lorsque Dieu fit promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, voilà la promesse. Certainement je te bénirai, Abraham, je te multiplierai ta postérité. Fermez les guillemets de la promesse. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a cru, mais ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Or, 16. Les hommes, en général, l'humanité, ils jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment devient une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est une chose de dire quelque chose, c'est une autre chose de promettre sur un vœu devant tout le monde avec un serment, ça devient plus élevé, la promesse de ne dire que la vérité que jamais avant. Et donc les hommes font comme ça, c'est normal, parce que les hommes ne sont pas fiables. Parfois ça doit être devant des témoins, pour que des témoins puissent faire tenir à sa parole. Sinon, il ne le fera pas. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire l'immutabilité, inchangeabilité, l'immutabilité de sa résolution. Dieu a intervenu avec un serment. Pourquoi? Afin que, par les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Dieu n'est pas capable de mentir. Dieu n'est pas capable d'agir contre sa propre nature. Mais je croyais que Dieu pouvait faire tout. Dieu peut faire tout ce qui est bon. Il ne peut pas agir contre sa propre nature. Il y a plein de choses que Dieu ne peut pas faire que vous pouvez faire. C'est exactement l'argumentation que Satan a eue avec Adam et Ève. En tant que serviteur de Dieu, vous ne pouvez que l'obéir. Vous êtes incapable de connaître le bien et le mal. Vous ne connaissez que le bien. Et il demandait, le mal, c'est quoi ça? Ah, je le sais. Parce que je suis libéré de ce Dieu. Et si vous me suivez, vous serez aussi libéré de faire ce que tu veux. Et la dernière chose que qui que ce soit veut, ou veut être privé, c'est leur autonomie. Tout le monde pense de leur autonomie, j'existe pour moi. Et vous êtes enseigné par d'autres, oui, vous existez pour vous. Réalisez votre potentiel, restez indépendant, restez autonome, pas dépendant de qui que ce soit. Une impossibilité pas trop difficile à saisir quand même, si on réfléchit juste un tout petit peu. C'est ce qui a été la tentation depuis le début. Mais, verset 18, « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible pour que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Qui sont encouragés? Ceux dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et l'espérance, c'est le mot que nous avons cherché à approfondir. J'espère, pas le sens moderne, mais il y a trois sens que ce mot est utilisé. C'est un désir pour l'avenir. C'est une chose objective. C'est un désir subjectif. C'est une chose objective. Mon espoir, c'est que. Ça, c'est une chose objective. Et c'est la cause de ce que je cherche. Donc, mon seul espoir, c'est que Christ me sauve. La seule, Christ est l'objet de mon espérance. Salut est mon objet de son espérance future. J'espère pour le futur. Et nous avons vu ça avant. Alors, quatre fois, Dieu est apparu à Abraham. Et j'aimerais assez rapidement traverser ces quatre fois parce que notre texte nous parle de Abraham par rapport à notre salut. Je suis convaincu, il y a quelque chose de bien quant à vous, par rapport au salut. Et une chose qui devrait vous donner beaucoup d'espérance, c'est que Abraham était quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu quand il avait 75 ans. Alors, nous savons cela. Verset 1 de chapitre 12 de Genèse. L'Éternel dit à Abraham. Il n'est pas Abraham encore. Abraham veut dire père exalté. Abraham veut dire père d'une multitude. Abraham dit, l'Éternel dit à cette personne exaltée, donc apparemment dans son entourage, il était quelqu'un d'estime, quelqu'un de assez respecté et de connu et certainement riche, parce qu'Abraham était riche toute sa vie par rapport aux choses possessions. L'Éternel dit à Abraham, dans l'Ur de Chaldée, quand il était un païen qui ne connaissait pas Dieu, « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. » Il a 75 ans maintenant, sa femme a 65 ans. « Je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une grande promesse, mais il n'y a pas de serment ici. Il n'a pas donné un serment, mais c'est une promesse qu'Abraham a compris. Nous avons du mal à vraiment saisir toutes les implications de ce que Dieu vient de lui dire. Abraham, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas d'hôtel de trois étoiles. Et il n'y a personne que tu connais. Tu vas partir d'ici. Certainement, tu ne verras jamais ta famille. Tu vas laisser ton passé. Pour toujours, tu vas laisser tes amis, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser ta culture, tu vas même laisser ta langue. Et tu vas aller là où tu n'as aucune idée. Tu vas aller loin et tu vas continuer et tu vas pouvoir vivre dans des maisons. Abraham est mort 35 ans plus tard, sans jamais construire une maison pour lui-même. Toujours vécu dans des tentes, toujours croyante dans celui qui avait donné cette promesse quand il avait 75 ans. Dieu est apparu 4 fois pendant 25 ans. Ça fait long. Pour écouter un appel de Dieu et puis de ne rien entendre pendant une dizaine d'années, ou 8 ans, 7 ans à peu près, je ne sais pas s'il était espacé tous les 7 ans à peu près, ou quoi que ce soit. Mais il devait partir purement sur un appel et une promesse. Même pas un serment. Je voulais juste noter ça, parce que nous avons lu dans notre texte, il y avait le serment, n'est-ce pas? Et enfin, tout ce passage parle du serment. Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grande chose, mais donc par lui-même. C'est-à-dire, vous pouvez jurer par quelque chose que vous allez payer, une dette, quelque chose qui est assez élevé pour que les gens disent, ah, devant plusieurs témoins, je vais te garder ta parole contre ça. Il n'a pas fait ça par rapport à la lune, par rapport au soleil, par rapport à l'univers, même par rapport aux anges. Je jurerai par Gabriel et... Quel est l'autre? Je jure par les anges. Il n'a pas dit ça. Il a juré par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de plus grand que lui-même. Dieu a juré Abraham par lui-même. Mais ce n'était pas ici où nous avons vu. À travers notre texte, le serment est important. Donc, il est parti. Il va, il obéit au Seigneur, il ne sait pas où il va, mais il ne fait que être dirigé par le Seigneur. Deuxième chose que nous voyons que l'Éternel est apparu, et il vaut mieux que vous cherchiez dans vos Bibles, parce que je ne mets que quelques flashs dans le texte. C'est très 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 intéressant à partir du premier verset. Mais quelques versets. Cette deuxième fois, l'Éternel dit à Abraham, « Abraham, sache que tes descendants seront étrangers et dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Wow! Pendant 400 ans. Trois, quelques versets plus tard, « Toi, tu iras en paix vers tes pères même. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse, mais à la quatrième génération. Ils reviendront ici. » Verset 18, « Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Mais il n'y a pas de serment. Il y a une promesse. Et Dieu est en train de parler tout simplement à Abraham. Abraham a mis tous au vent pour obéir au Seigneur. Constamment, Abraham, on est trop dur sur Abraham. Parce qu'Abraham prend l'âge. Abraham se met en discussion avec sa femme et peut-être avec d'autres de ses serviteurs. Écoutez, Dieu m'a promis un fils. Il a promis, mais maintenant, ma femme est probablement incapable de me donner un fils. Et si ça continue, je ne serai pas plus capable de produire un fils moi-même. Peut-être, il faut faire autrement. Et donc, il cherchait un autre moyen. Et oui, il n'a pas fait comme il aurait dû faire. Il y avait quelques moments où il était très craintif parce que sa femme, même à son âge, était tellement belle que les autres personnes plus élevées en puissance avaient le droit donné par soi-même de prendre n'importe quelle femme comme les leurs, ce qui était arrivé à Pharaon quand ils sont entrés. Et le roi regardait cette belle femme, il a pris dans son harem et le Seigneur a frappé avec une maladie pour que il ne touchait pas cette femme, comme nous avons lu, entendu, mais Jean-Jacques dans un message apparaît, le menace de Satan contre la seule femme capable de produire la postérité qui terminerait par nous donner Jésus-Christ. Oui, Abraham avait des moments où sa faiblesse, sa foi était faible. Mais quand vous mettez le reste, toutes les choses qui étaient tellement impossibles, Dieu parlait, Abraham croyait, il faisait de son mieux de le suivre à la lettre. Et puis la troisième fois, nous lisons ici maintenant, chapitre 17. Maintenant, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, rien n'a changé par rapport à la réception de la promesse. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je deviendrai père d'une multitude de nations, tu deviendras, pardon. » Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, comme je vous ai dit, père exalté, mais Abraham, parce que je te rends père d'une multitude de nations. J'imagine. Essayez d'imaginer. Là, combien c'est ridicule. Abraham va quelque part, il est des gens, mais comment ça va? Je reviens. Où est ta famille? Mais j'ai ma femme ici. Oui, j'ai aussi Ishmaël maintenant, à cause de sa laps de foi. À part ça, je n'ai rien. Comment tu t'appelles? Abraham. Oh, ça veut dire père d'une multitude. c'est drôle, ça. Oui, avant, mon nom était Abraham, père exalté, parce que dans mon pays, j'étais exalté. Et maintenant, Dieu a changé mon nom en Abraham, parce que je vais être père d'une multitude. Quel est plus drôle et incroyable aux gens qui entendent ça? Un étranger. Il n'était jamais chez lui. Il était toujours un pèlerin. Toujours un étranger. Toujours habitant dans une tente. Et puis, on t'appellera Abraham, mais pas ça. Pas Abraham, mais Abraham, parce que je te rendrai père d'une multitude de nations. Ah, je vais bénir Sarah. Et je te donnerai d'elle un fils. Ah, c'est pas vrai, elle a 90 ans maintenant. C'est pas vrai. Abraham, je te bénirai Sarah, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra mère des nations, pardon, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham, à 99 ans, Abraham tombe sur sa face. Il rit. Attention, ce n'est pas le rire de incrédulité, comme Sarah avait fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout ça. C'est un rire de exaltation, de c'est pas possible, mais si. Toi qui l'as dit, je ne peux pas ne pas accepter. Vous savez, comme je disais la semaine dernière, nous croyons des choses pas forcément à cause de la force de la chose promise, mais à cause de la force de la personne, de la fiabilité de la personne qui a parlé. On vit comme ça. Vous étudiantes, vous êtes comme ça. Vous allez, vous acceptez plein de choses que disent votre professeur. Vous ne l'avez jamais constaté ça avant, mais la fiabilité de ce personnage vous donne son auditoire captif. Vous acceptez parce que vous êtes sûr qu'il ne va pas vous guider dans les ténèbres. Et il va vous enseigner les merveilleuses choses et il va le faire. On accepte des choses plus selon la parole de la fiabilité de la personne qui parlait que sur notre compréhension de la chose crue. Et en tant que petit, on ne peut pas que vivre comme ça. Et on continue à vivre comme ça jusqu'à présent. On accepte ce qu'on accepte, on rejette ce qu'on rejette très souvent, tous les jours. Suivons la fiabilité dans notre opinion de la personne qui promet. Donc, pas de serment. Troisième apparence de Dieu, Abraham, il n'y a pas de serment. Peu importe, pas de problème pour Abraham. Dieu parle, j'accepte qui a besoin d'un serment. Quatrième, Genèse chapitre 22. Et vous savez cet incident, n'est-ce pas? C'est une histoire remplie de beaucoup d'intrigues et beaucoup d'émotions et beaucoup d'excitation. Quand on le lit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moricha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous ne lis pas qu'il y a aucune hésitation. Dieu parle, j'accepte. Abraham a l'habitude. Abraham se leva de bon matin et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, et nous lisons dans les versets qui suivent, qu'il voyageait pendant 3 jours avec plusieurs serviteurs. Il arrive à la base de la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, il prend le bois, il prend les choses pour construire un hôtel, lui et Isaac seul, il monte sur la montagne. Et nous lisons verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le charge sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Il y a beaucoup de spéculations par rapport à l'âge de Isaac. Isaac était au minimum 15 ans ou 18 ou 20 ans, peut-être jusqu'à 40 ans. Membre de la famille, assez facile de dire à son père qu'il y a bien plus que son temps maintenant. Il est mort à 125. Il aurait pu facilement dire, non papa, je t'aime beaucoup, mais c'est sûr, tu ne vas pas me faire monter sur cet autel pour que tu prennes cette épée pour que tu m'égorges. Désolé, je t'aime, mais non. Qu'est-ce que tu aurais fait? Il n'a pas fait ça. Ça, nous le savons. Abraham avait une assurance. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça. Parce qu'il m'a promis, il m'a donné un fils par ma femme qui avait 100 ans. Non, 90 ans, quand j'avais 100 ans, il m'a promis, il va garder sa promesse, pas de quelqu'un d'autre, mais de ta postérité. Et lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il élevait un autel, range le bois, et là, son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Et puis, Oui, ça continue. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Regardez verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham, une seconde fois Abraham des cieux. 16. Et il dit, « Je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et la Bible dit, parce que Abraham a cru à l'Éternel, Dieu l'appelle, excusez-moi, j'ai pas mis le reste du verset, mais il est là. Je le jure par moi-même. Ici, c'est le passage que l'apôtre cite 4000 ans plus tard dans le livre de Hébreux. Et je veux que nous revenions pour que nous essayions de mettre tout cela dans sa propre place. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il n'a pas juré la première apparence, il n'a pas juré la deuxième apparence, il n'a pas juré la troisième apparence. Abraham suivait, suivait, croyait, croyait, obéissait, obéissait. En fin de compte, petite parenthèse, nous ne lisons jamais que Abraham désobéissait à l'Éternel. Il y avait les moments manques de, avec la fragilité de la situation où il a agit selon sa propre sagesse, pas pour transgresser la parole de l'Éternel. La promesse, verset 14, « Certainement, Abraham, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité. » Ça, c'était la deuxième apparence, après une brève présentation la première fois. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, attention, ayant persévéré. Pourquoi la foi et la persévérance sont très souvent mises ensemble? Et la raison, c'est parce que la vie est dure. La vie est dure. Dieu nous a donné dans un contexte où on prend la foi qu'il nous donne et nous allons persévérer dans cette foi, la persévérance de cette foi est l'évidence de la réalité, l'authenticité de cette foi qui vient de Dieu. Tous croient. Tout le monde a une foi. Il n'y a personne qui n'a pas de foi. Je connais les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Je n'ai vu aucune personne qui entrait dans cette salle, qui examinait la chaise, qui le regardait comme ça, pour s'assurer que la chaise était assez forte pour vous tenir. Peut-être vous l'avez fait, mais j'ai vu personne. Par la foi, vous êtes assis sur une chaise dont tu ne connais pas le constructeur, tu ne connais pas la personne qui a fait votre chaise à vous. Vous ne connaissez pas son caractère, il peut être un homme très immoral, il peut être un meurtrier, il peut être quelqu'un de très mauvais caractère, et c'est lui, et vous avez votre confiance entièrement à 100% en lui. Ce matin, je vous ai vu. Je suis témoin. Que vous croyez dans la fiabilité de quelqu'un que vous croyez devrait être fiable. Et maintenant, sur les choses invisibles, ah, ça c'est autre. mais les réalités invisibles sont plus sûres de la parole de Dieu que les choses réelles, mais éphémères et passagères et changeables. Ça va brûler un jour, probablement, ou ça va être utilisé pour quelque chose d'autre. Ça change. On change le meuble, on met ça à la déchetterie. On ne sait pas comment, maintenant, suivant les réglementations pour les choses qui doivent être traitées à cause de leur toxicité, etc. Je ne sais pas tout ça, mais tout change. Mais les choses réelles ne changent pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. Et nous devrions reconnaître que notre salut est aussi quelque chose qui ne change pas du tout. Les hommes jouent verset... verset 15, j'étais en train de parler, ayant persévéré. La persévérance, attention, la persévérance n'est pas la cause de notre salut. La persévérance est ce par lequel la foi s'exerce. Nous lisons, il a cru, mais ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Et la persévérance et la foi vont absolument ensemble. La foi qui sauve sera de suite et pendant toute notre vie mise à l'épreuve. La foi qui sauve est une foi qui persévère jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu, verset 17, voulant montrer, ce verbe vouloir est parfois traduit désirer, mais ce n'est pas le même désir que d'autres. C'est un mot qui veut dire décréter ou déterminer. Dieu a déterminé. Alors, pourquoi Dieu a juré? Dieu n'a pas juré pour Abraham. Abraham avait déjà pris le couteau pour faire tuer son fils avant que Dieu jure. Regardez verset 17. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Aux héritiers de la promesse. Alors, en passage, que je regrette que je n'ai pas mis sur le tableau, donc je vous demande de tourner avec moi pour terminer. Et ça, c'est Galates chapitre 3. Tournez avec moi Galates chapitre 3. Si vous ne savez pas où ça se trouve dans votre Bible, demandez une personne à côté de vous pour vous aider. Trois versets. On va entrer en plein milieu d'une discussion de l'apôtre Paul par rapport à la foi. Verset 26. Galates 3, 26. Alors, 4000 ans après Abraham. Galates 3, 26. Vous êtes tous, chrétiens, fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême de l'Esprit. Au moment de notre salut, baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, verset 28. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni grec. Il n'y a plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un. En Jésus-Christ, 29, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance de Abraham, héritier de la promesse. Ce serment est pour moi, Robert, et pour vous, 4000 ans avant, Dieu a promis serment ou pas serment, ça ne changerait rien avec Abraham. Mais pour vous et moi, avec tout ce qui est en question, quand nous déterminons de croire, on est changé. On a notre manière de vivre, on a notre principe de loi de vivre. Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Et donc, héritier de la promesse, nous voyons l'immutabilité de la résolution de Dieu qui est intervenue par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous croyons, trouvions un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Je ne sais pas tout, mais je sais ça. En tant que chrétien, que vous soyez encouragé puissamment par un Dieu qui ne peut pas changer par rapport à sa promesse de sauver qui? Et ça, c'est la dernière chose ici. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Nous, dont le seul refuge a été. Et ça, c'est une correspondance directe au livre de Nombre où il y avait des cités de refuge où une personne qui avait tué quelqu'un pourrait fuir à cette cité de refuge. Et il serait sain et sauf à l'intérieur de cette ville jusqu'à ce que son cas est décrété par un tribunal correct, légal, comme il faut. Il était sain et sauf. Ceux qui viennent au Seigneur pour se réfugier en lui parce qu'ils savent, celui qui condamne me chasse. Celui qui a le droit de me condamner et de me mettre à l'enfer à cause de mes péchés me chasse. Quand nous sommes venus pour être sauvés, sauvés de qui? Sauvés de Dieu. Parce que Dieu est ou votre juge ou il est votre sauveur. Il a promis que ceux qui viennent à son Fils Jésus-Christ peuvent se refugier en Christ. Et il ne va pas changer par rapport à ceux qui se refugient en Christ. Est-ce que ça, c'est votre cas? Si ce n'est pas le cas, ça peut être votre cas avant que vous sortiez aujourd'hui. Il n'est pas difficile de se réfugier. Ça se fait ici. Ils ne font pas de muscles. Il n'y a pas une liste de choses à accomplir. Et venez la semaine prochaine, on verra si tu fais de progrès. Non, pas assez. Et venez l'année prochaine ou dans 10 ans, après un long pèlerinage et avoir une liste de choses espérantes contre toute espérance que Dieu va accepter vos notes qui n'est pas un trop bon niveau. Beaucoup de gens vivent devant Christ comme ça, toujours craintifs, qui n'arriveraient pas à faire plaisir à Dieu. Il y a une chose qui fait plaisir à Dieu. Quoi? Fuis à Christ pour vous réfugier contre le condamnateur de vos péchés. Et vous êtes sain et sauf. Pourquoi? Parce que son Fils unique est allé jusqu'à la croix. Il n'a pas fui le jugement. Il a accepté la condamnation de son Père à votre place. Vous n'avez que fuir à Christ. Il a juré, il a promis, il a juré. À qui que ce soit vienne à lui, seront sauvés.